tout le monde. Christophe Rollin pour l'émission spectaculaire qui commence en ce mercredi 12 juin 2013. Franck-Emmanuel Comte est présent avec nous, directeur, patron, chef, je ne sais jamais comment quel terme exactement employer, du chœur, du concert, de l'Hostel Dieu, le CHD. Nous allons parler de deux événements à venir. Un premier, c'est le concert qui a lieu la semaine prochaine, deux dates, les lundis 17 et mardi 18 juin à 20h30. C'est à la Chapelle de la Trinité, il s'agit de la Judita Triumphans, la Judith triomphante. Et puis deuxième événement, la saison 21 qui commence au mois d'octobre pour se terminer en juin 2014, une saison riche avec le Requiem de Mozart notamment, Couperin qui va rencontrer des ragas indiens, enfin voilà, beaucoup de choses. Franck-Emmanuel Comte est présent avec nous jusqu'à 15h. Nous sommes sur Radio Canu, vous pouvez nous écouter sur internet radiocanu.org ou bien à Lyon au 102.2 de la bande FM. Nous commençons avec un premier extrait, la Judita Triumphante, et puis nous en parlons avec Franck-Emmanuel Comte jusqu'à 15h. Emmanuel Comte, bonjour. Je suis en train d'interrompre un petit peu le tout début de la Judita Triumphante concert qui est donné, que vous donnez à la tête du concert de l'Hostel Dieu, le CHD, les lundis 17 et mardi 18 juin à 20h30 à la Chapelle de la Trinité. Eh bien, vous qui êtes beaucoup plus au courant que moi, vous qui avez des connaissances sur cette œuvre, que pourriez-vous nous dire, eh bien, sur, je ne sais pas, sur la composition historique peut-être, sur ce premier morceau? Nous parlons tout à l'heure de l'Ospedale della Pietà. Écoutez, je vous laisse la parole. Bonjour, tout d'abord. Quel titre? Déjà, j'y pense. Directeur du CHD.
Directeur musical.
Donc, ce concert à venir les lundis 17 et mardi 18 juin, comment pourriez-vous nous le présenter?
Alors, c'est le concert final de notre 20e saison, une saison anniversaire, et nous avons choisi pour l'illustrer, pour le marquer, cet oratorio de Vivaldi, la Judith triomphante, qui est un oratorio en latin, mais extrêmement théâtral, lyrique, festif, virulent, de Vivaldi, compositeur plein de peps et d'énergie dans tout ce qu'il fait. C'est une fresque biblique autour d'un extrait du livre de Judith. C'est une sorte d'opéra latin allégorique qui a été composé par Vivaldi pour fêter la victoire des Vénitiens sur les Turcs en 1715. Donc c'est une œuvre qu'il a vraiment imaginée comme festive et puis symbolique. En deux mots, Judith est assiégée dans Béthulie. C'est une jeune femme, elle est veuve déjà, et puis autour il y a les armées du roi, du général Holoferne, qui est sur le point de massacrer tous les habitants de Judith, et puis Judith décide de se sacrifier en quelque sorte, puisqu'elle elle va dans le camp ennemi et séduit le général Holoferne dans l'idée d'atterrir sa clémence. Et puis en fait, ça c'est le premier acte, et dans le deuxième acte, elle le séduit tellement bien qu'il boit un peu, il s'endort, et pendant son sommeil, il lui tranche la tête, et du coup, toute l'armée s'enfuit à la vue de la tête tranchée du général. Donc victoire pour Judith, victoire pour Béthulie, et surtout, donc je le disais en introduction, victoire pour Venise, sur les victoire des catholiques sur les mécréants, sur les Turcs.
Oui, c'est ce que vous avez indiqué, c'est tiré de la Bible, et donc c'est un épisode sur l'histoire, enfin du moins sur Israël, au tout début, qui est assiégé, je crois, par les Assyriens. Vous avez évoqué un roi,
voilà.
Le roi, on peut le nommer, c'est celui qui a ce nom si long, il y a combien de lettres dans ce nom C'est le Nabucodonosor,
voilà.
C'est donc lui le roi qui envoie Holoferne pour, pour mater. Contexte donc historique, vous l'évoquez à l'instant. Sur,
double contexte,
ouais. Effectivement, sur Venise qui a vaincu les Turcs. Peut-être une histoire moins grande histoire, mais alors c'est ce à quoi je pensais tantôt, une sorte de petite histoire de 1703-1738. Vivaldi est à travail, enfin je ne sais quel terme employer, à l'Ospedale della Pietà. Quelle incidence a eu cette... enfin, incidence, c'est peut-être même pas le terme, mais disons, quelle importance a eu les fonctions qu'il a pu mener sur un contexte, donc, on pourrait dire, la petite histoire à côté de la grande histoire, Venise qui bat les Turcs, et bien l'histoire plus petite sur ces hospédaliers. Il y en avait plusieurs à Venise, il y en avait quatre.
Oui.
Comment pourriez-vous nous présenter ceci, et l'importance de du travail de Vivaldi qu'il a mené avec les jeunes filles, le Coro delle Figlie, pour cet opéra, là, enfin opéra, je continue à l'appeler opéra, alors que c'est plutôt un oratorio, il me semble l'avoir dit tout à l'heure, opératorio, hein, on s'était presque mis d'accord sur ce mot valise. Donc ce travail à l'Ospedale della Pietà, pourriez-vous nous en dire quelques mots s'il vous plaît, Franck-Emmanuel Comte?
Alors effectivement, il y a ces hospédales qui sont en fait des couvents orphelinats, on recueille des jeunes filles et on les éduque, on leur donne une éducation complète et entre autres complète sur le plan artistique, musical. Elles apprennent à chanter et à jouer de nombreux instruments. Et l'incidence pour Vivaldi, c'est qu'il aura finalement, pendant ces plusieurs dizaines d'années, à disposition des groupes de chanteuses de très haut niveau et de musiciennes, corvéable à merci, puisqu'elle n'était pas rémunérée, et pour lesquelles il a composé des œuvres exigeantes, tant des œuvres religieuses que des concertos instrumentaux, mais surtout de la musique religieuse. On connaît de Vivaldi le célèbre Gloria. Bon, il a été composé dans ce contexte-là. Donc il avait cet orchestre purement féminin, mais avec ces jeunes artistes qui faisaient un peu fantasmer tous les Vénitiens et même toute l'Europe, puisqu'on se pressait derrière les grilles de la chapelle du couvent pour entendre et à peine apercevoir, parce qu'elles étaient cachées à la vue, donc ça nourrissait évidemment tous les fantasmes, ces jeunes filles qu'on imaginait belles, en tous les cas elles étaient jeunes, et elles étaient très talentueuses, donc c'était un peu des espèces d'anges musiciens que Vivaldi avait à sa disposition. Donc la Judith triomphante a été composée pour cette troupe de jeunes chanteuses. Les cinq rôles principaux sont donc des rôles féminins, ceci expliquant cela, dont quatre mezzo-sopranos, c'est-à-dire des voix graves. Et puis, surtout, il y a dans l'orchestre une instrumentation extrêmement riche, que l'on retrouve jamais dans les œuvres ultérieures, ou même dans la musique romantique, car avec 25 instrumentistes, il obtient au moins 50 couleurs différentes. Ça veut dire que chacune de ces filles savait jouer de plusieurs instruments, et qu'elles changeaient d'instrument au cours de la représentation, tout ça pour varier la palette sonore, et obtenir plus de contraste et de richesse.
Ce que nous pouvons indiquer là, pour revenir sur ces hospédales, c'est qu'au début il y avait un aspect, je ne sais pas comment nommer cela,
social.
De charité, voilà, sociale, ouais, puisque c'était des orphelines, mais C'est vous qui l'indiquiez dans la présentation. Il y a eu une sorte d'évolution qui fait que n'ont plus été recrutées des orphelines, mais plutôt, c'est fait, j'emploie le terme de recrutement, c'est d'ailleurs presque à dessein, hein, ont été recrutées des filles davantage sur leur talent, sur leur qualité, que sur leur situation sociale qui n'était sûrement pas très bonne. Et donc, cela allait complètement dans le sens de ce que pouvait faire Vivaldi, puisqu'il avait des personnes à sa disposition très talentueuses, donc il pouvait attendre d'elles, hein, il pouvait avoir de grandes exigences. Vous étiez en train d'évoquer donc une certaine difficulté, ou disons le fait qu'avec peu d'instrumentistes, ils puissent arriver à créer des différentes couleurs. C'est une œuvre exigeante, hein, je crois, qui d'ailleurs n'a pas été beaucoup jouée depuis sa redécouverte en 1920, il me semble.
Oui, non, c'est très rarement joué, car il faut effectivement, il y a des instruments très étranges et très bizarres, disparus pour la plupart, qu'il faut reconstituer, voire reconstruire. Pour obtenir la palette orchestrale, d'une part. D'autre part, le cast des solistes est très exigeant. Il faut 4 voix graves, 4 mezzo-soprano ou contralto. Et plutôt des filles jeunes, puisque voilà, c'était écrit pour des jeunes filles qui étaient sans doute des adolescentes ou des jeunes adultes. On ne peut pas faire chanter ce genre de rôle par des artistes de 40 ans. Ça me semble, en termes de couleur vocale, ça me semble un peu décalé. Donc si on veut vraiment travailler la couleur, il faut vraiment trouver... une distribution tant sur le plan instrumental que vocal qui est très très particulière, et j'avoue que moi j'ai attendu 20 ans pour m'y coller, parce que ça fait longtemps que j'avais cette œuvre là un petit peu dans mes cartons, mais j'ai attendu le 20e anniversaire et le dernier concert pour le faire, pour être sûr de le faire à peu près bien, tout simplement.
On a évoqué donc ce casting. Est-ce qu'on pourrait revenir peut-être un petit peu sur l'intrigue et distribuer donc les rôles? Il y a d'un côté le camp des Israéliennes avec en tête Judith, aidée de sa servante Abra, et puis de l'autre côté les méchants, pourrait-on simplifier, Holoferne le général avec à sa suite Vagaos, je crois.
Oui, son serviteur.
Et puis un cinquième personnage, je reconnais avoir peu de renseignements sur cette Ozias.
Alors Ozias qui n'intervient que dans la deuxième partie est le grand prêtre de Béthulie. Donc lui, c'est une sorte de prêtre, ou une allégorie peut-être du doge de Venise. C'est une figure tutélaire, un peu majestueuse, qui représente la foi, mais surtout l'autorité. Et il n'intervient que dans la deuxième partie, et finalement son rôle est un petit peu moins central que les autres protagonistes, on peut le dire.
Vous évoquez Venise, généralement je sais que vous appréciez également de parler de Lyon. Y aurait-il un lien entre cette Venise du début 18e et puis Lyon? Est-ce que nous parlions de partition? Non, la partition est accessible, vous n'êtes pas allé la chercher, la débusquer dans un...
Pas celle-là.
Pas celle-ci. Est-ce qu'il y a un peu de Lyon dedans, ou ça peut être tout simplement non?
Fait, Lyon a un lien très très fort avec Rome.
Même époque?
Oui, à la même époque, oui. Lyon-Rome, il y a énormément de partitions de Romains à Lyon. Mais cela dit, il y a du Vivaldi aussi à Lyon, mais pas cette œuvre-là. Il y a des concertos, des manuscrits de Vivaldi à la bibliothèque de Lyon. Bon, c'est tout simplement que entre les diverses cités italiennes, que ce soit Rome, Lyon, Gênes, Florence, etc., il y avait énormément d'échanges, et que tous ces échanges-là passaient souvent par Lyon via les échanges marchands, bancaires ou religieux. Les jésuites ont d'ailleurs un rôle très important, notamment entre le lien entre Lyon et Rome. Et pour nous, musiciens du XXIe siècle, on les remercie, puisque ça nous permet de redécouvrir des manuscrits romains ou italiens à Lyon encore de nos jours.
Vous disiez avoir attendu 20 ans pour vous mettre à cette œuvre. Est-ce que vous auriez également attendu, on peut évoquer tout de même le rôle qu'il a pu jouer, auriez-vous attendu Paul Agnew qui a contribué un petit peu, on l'évoquait encore à l'instant, j'ai toujours mal maîtrisé cette notion, donc masterclass, c'est-à-dire le recrutement, oui. S'est fait au terme de cette... ça a eu lieu d'ailleurs à quelle époque? C'était en début d'année, c'est ça?
Au mois d'avril. Donc oui, avec Paul...
On peut indiquer, hein, Paul Agnew, je vous en prie, présentez-le.
Paul Agnew, qui est donc un chanteur ténor, contre-ténor, haute-contre à la française, qui fait une carrière mondiale très connue, et qui est second chef des Arts Florissants, qui est, à mon avis, l'ensemble baroque qui peut-être un des meilleurs au monde.
Et le, Paris. Le premier, même, je crois, on peut dire, non
disons. Peut-être pas le premier, mais.
Pas loin.
Voilà, c'est ils ont fêté leurs 30 ans il n'y a pas très longtemps, donc ils sont plus âgés que le concert Lostelieu, et surtout beaucoup plus connus. Et Paul Agnew est un ami, donc il vient diriger de temps en temps le concert Lostelieu. Il l'a fait l'année dernière pour la création d'un Requiem de Palestrina. Il le fera l'année prochaine pour un concert Purcell. Et là, il a plutôt accompagné la préparation individuelle et vocale, stylistique du jeune casting de soliste, en les faisant travailler lors de masterclass qui se sont tenues en avril. Alors, une masterclass, et on intervient sur la vocalité, sur le style, sur le contexte, et puis on essaye de guider ces jeunes solistes vers une interprétation plus nourrie, plus maîtrisée. Et le regard extérieur d'un artiste de son niveau est toujours très précieux pour moi, bien sûr, mais surtout pour les artistes.
Et vous en parliez, nous l'évoquions à l'instant, c'est bien un oratorio, il ne s'agit pas d'un opéra, il n'y a pas de mise en scène. Néanmoins, il y a quand même, enfin, comment appeler ceci, il y a une incarnation. Il y a, puisqu'on peut davantage parler d'ailleurs de cette œuvre elle-même qui fonctionne avec ce système de, enfin, système récitatif, mouvement, enfin du moins passage de chœur, enfin je dis passage, c'est pas encore la bonne terminologie, mais surtout des arias qui peuvent parfois être très beaux. On va pas en écouter un tout de suite, on écoutera plutôt, vous parliez du Gloria de Vivaldi, c'est ce qu'on va écouter dans quelques instants, mais pourriez-vous justement donner quelques mots pour peut-être davantage sur ces solistes et sur cette incarnation, enfin je ne sais pas comment nommer ceci, ça n'est pas de l'opéra, mais il y a quelque chose quoi.
En fait, c'est très proche de l'opéra, puisque ce sont des œuvres que l'on composait pendant le temps de Carême, où on n'avait plus le droit de composer d'opéra, donc on continuait à composer de l'opéra en quelque sorte de manière un peu camouflée, en utilisant le latin, et des sujets bibliques ou des sujets sacrés. Mais du coup, c'est vrai que l'aspect scénique était un peu secondaire, il pouvait y avoir des costumes, des déplacements, mais il n'y avait pas les machineries habituelles que l'on retrouve dans l'opéra, etc. Mais il s'agit bien effectivement d'un opéra sacré, on va dire, donné pour le temps de Carême. Donc c'est incarné principalement musicalement, puisque comme il n'y a pas d'effets spéciaux et de machinerie, la musique a d'autant plus d'importance, et les effets dramatiques que l'on peut mettre en musique sont d'autant plus nécessaires, puisque finalement le théâtre se retrouve dans la voix, dans le larynx des solistes et dans l'orchestre. Donc c'est une théâtralisation qui est plus fine, qui est plus intériorisée, mais qui est tout aussi efficace, notamment pour les mélomanes.
Et c'est là donc que Paul Agnew sera intervenu, voilà. Pour justement
tout à fait.
Pour donner cet aspect, pourrait-on dire, visuel notamment, et cela me fait une transition. Gérald n'est pas là aujourd'hui parmi nous, mais mon bon camarade, cofondateur de l'émission, pourrais-je dire, m'indiquait que si jamais il était passé, il serait venu avec des représentations, des tableaux, puisque nous parlons de Judith et Holoferne, le nom de Judith triomphante, il y a tout de même bien ce prénom derrière. Et donc dans ces représentations, puisque là nous évoquons une œuvre musicale, dans ces représentations qu'on a pu beaucoup voir, Caravage, Lapin, je crois, Artemisia Gentileschi a également fait même, je crois, plusieurs tableaux, où l'on voit des choses, ça alterne, toujours avec cette idée de chiaroscuro, on alterne entre des passages qui sont extrêmement violents, très sanguinolent, et d'autres qui sont peut-être un peu plus doux. Eh bien, celui-ci me disait, Gérald me disait, si je venais, je présenterais volontiers à Franck-Emmanuel Comte, je lui montrerais volontiers différents tableaux pour lui demander ces deux choses. Tout d'abord, comment réagirait-il, enfin lui-même, qu'éprouverait-il? Et puis deuxièmement, pourrait-il faire peut-être une sorte de lien avec la musique de cet oratorio donné lundi 17 et mardi 18 juin prochain? Alors, certes, pour les auditeurs, on peut vous indiquer ceci, il y a une conférence qui sera faite par Patrick Favre-Tissot, qui sera tenue mardi, je n'ai pas encore les précisions, mais... Mardi à 18h, à quel endroit?
À la Chapelle de la Trinité, sur le lieu du concert.
Sur place, et donc, on nous évoquions tout à l'heure que lui en parlera, mais oui. Vous-même, avec cet aspect de directeur musical, de chef de chœur, chef de l'ensemble, du concert de l'Hostel-Dieu, quel regard avez-vous? Vous les connaissez un peu, ces toiles de Artemisia, de Caravage?
Oui, bon, évidemment, les peintres insistent sur cet aspect spectaculaire du moment fatal où Judith tranche la tête du tyran. C'est vraiment le moment fort sur le plan théâtral. Mais dans la musique, c'est juste un moment. C'est une minute parmi 2h30 et il y a tout un cheminement beaucoup plus. C'est juste le point d'arrivée, mais c'est pas la finalité. Et Judith n'est pas une meurtrière, c'est une sainte. C'est quelqu'un qui n'a pas trouvé d'autre façon de sauver Béthulie que de trancher la tête d'Holoferne.
Ce n'est pas ce qu'elle souhaitait au début.
C'est pas une serial killer, si vous voulez, c'est pas Dexter, quoi, par exemple. Donc, mais elle-même, elle reste très pudique sur cet acte-là qui lui procure aucun plaisir. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, je pense à une autre décapitation dont on entendra tout à l'heure de la musique, Salomé, qui décapite effectivement la et qui, elle, en jouit véritablement. Alors que Judith, c'est une veuve pieuse et pacifique. Mais c'est justement ce contraste entre son pacifisme et son geste qui, décapiter quelqu'un, c'est pas l'empoisonner, ça demande une certaine force, une certaine volonté.
Il y a de la violence. Ouais.
Surtout que c'était sans doute pas lâche, donc il faut quand même le faire. Donc, et c'est ce conflit, sans doute, en elle, qui est traduit à un moment important de l'opéra, qui donne lieu à un magnifique air et qui est intéressant, plus que l'acte lui-même violent de décapitation. Mais les peintres ont retenu effectivement cet aspect-là un peu sanglant et qui, à mon avis, ne représente pas l'essentiel du propos et du symbole.
Oui, mais tout de même, pour ce qui est de cette œuvre, cette Judith triomphante, on a écouté là en thème d'émission, juste après le générique, nous avons écouté ce tout début, le chœur d'ouverture. Il y a un aspect martial quand même tout de même. Alors, les timbales qui percutent au fond, vous disiez qu'on n'est pas vraiment conduit vers ceci, ou disons pas complètement. Il y a une idée. Alors après, est-ce le contexte historique qui aurait joué? Est-ce que Vivaldi se serait senti engagé pour Venise contre les Turcs?
Voilà, c'est ça. Donc il ne faut pas oublier le contexte. C'est la victoire des chrétiens contre les musulmans.
Un an avant, c'est ça.
Voilà. Et puis, ce chœur d'ouverture symbolise les armées, justement. C'est un chœur des armées d'Holoferne. Ce n'est pas le chœur des gentils amis de Judith. C'est plutôt les ennemis qui vont périr. Tous périr à la fin, d'ailleurs. Donc c'est pas la victoire des militaires, en fait, c'est plutôt la déroute des militaires. Donc c'est un peu une ouverture à l'envers, en fait. Mais c'est pas la seule subtilité que recèle cet oratorio, qui joue souvent de contraste et de fausses pistes. Mais c'est un peu l'art baroque qui est comme ça en trompe-l'œil.
C'est formidable. Vous nous offrez une transition magnifique. On va donc écouter le Gloria, enfin disons un extrait. Voilà, peut-être légèrement nous présenter. Puis ensuite, deuxième temps de parole, nous parlerons de la saison à venir du concert de l'Hostellieu, la saison 21, 2013-2014. Juste avant cela, donc une petite pause. Et cet extrait,
alors j'ai choisi cet extrait parce qu'il est chanté par Antea Pichanik, qui sera une des mezzo-soprano solistes de la Judith, qui tient le rôle de Ozias. Et c'est, à mon avis, une des grandes voix de demain. Elle termine ses études au Conservatoire de Lyon. Et il faut vraiment écouter sa voix et la suivre.
Eh bien, nous écoutons cet extrait, toujours dans l'émission Spectaculaire. Il est 14h et une vingtaine de minutes, un peu plus. Toujours sur Radio Canu, 102.2 ou bien radiocanu.org. Cette musique est sûrement très agréable, chers auditeurs, je n'en doute pas, mais Franck-Emmanuel Comte me signale que ce n'est pas l'aria d'Antea Pichanik que nous écoutons. On va remettre le bon air, le bon aria, puis nous allons préparer ce deuxième temps de parole pour présenter, je crois que c'est elle qui va intervenir maintenant. Nous en parlons dans quelques instants, Radio Canu. Je n'ai pas été très correct puisque Franck-Emmanuel Comte, notre invité, souhaitait nous faire entendre un aria de Dante à Pichenik et les manettes, je les maîtrise mal, hein, spectaculaire, n'en est qu'à sa quatrième émission. Nous avons bien rétabli le tir, donc nous avons bien écouté cette soliste dans une œuvre, le Gloria du Vivaldi. Ce n'est pas l'œuvre qui sera jouée lundi et mardi prochain, lundi 17 et mardi 18, la Judita Triumphans. Néanmoins, c'est bien cette soliste qui sera présente sur scène. Franck-Emmanuel Comte, directeur musical du concert de l'Hostel Dieu, deuxième mi-temps, on pourrait dire, si on parlait de football, si on parlait de sport. Deuxième partie, pour parler plus précisément, ou même de manière plus générale, de cette nouvelle saison qui arrive, hein, cette nouvelle saison, saison 21, puisque là nous étions dans la saison anniversaire, saison 20 qui s'achève d'ailleurs, mardi 18, je suppose, mardi 18 juin prochain, 20h30 à la Chapelle de la Trinité. Elle s'achève avec la Judita Triumphante. Nouvelle saison qui commencera en octobre avec une belle œuvre, hein, et puis qui se terminera au mois de juin 2014. Franck-Emmanuel Comte, puisque vous êtes présent, je vous laisse indiquer quelle sera cette belle œuvre au mois d'octobre, et puis je vous laisse indiquer peut-être les différents lieux. Il me semble que vous y tenez à ces différentes, comment appeler ceci, différentes ambiances, enfin, différentes jauges, on pourrait dire aussi, différents sons sûrement. Et puis moi, ce que je vous demanderai tout à l'heure, mais on l'a déjà évoqué, c'est encore un rendez-vous entre des musiques exotiques et puis des choses bien plus locales. Comment établissez-vous ceci, hein, pour quelles raisons? Je vous en prie, c'est à vous la parole.
Oui, donc cette 21e saison est placée sur le thème des goûts réunis. Les goûts réunis, c'est un recueil de Couperin, François Couperin, claveciniste du 18e siècle, qui a voulu marier les goûts français et italiens dans un recueil instrumental. Il faut dire qu'il y a différentes querelles à cette époque-là autour du style français et italien qui ont nourri beaucoup de controverses et beaucoup d'agressivité. Et donc nous avons donc naturellement une saison très portée sur la France et l'Italie, avec quelques détours, notamment en ouverture, en fermeture. Vous parliez d'une grande œuvre, effectivement, en octobre, ce sera le Requiem de Mozart, qui, bien sûr, est extrêmement connu aux confins de notre répertoire. C'est de l'extrême modernité pour nous.
Et oui, c'est ça. Je ne réagis que maintenant. Voilà, mon Dieu, comment cela, le concert de l'Hostel Dieu qui va toucher au Requiem 1791. Mais
le principe de travail sur instrument baroque est plutôt, faut l'élargir, sur l'instrumentarium ancien. Et les instruments, l'orchestre classique tel qu'on connaît maintenant ne s'est fixé qu'au début du XXe siècle. Donc on peut très bien faire tout le XIXe siècle sur instruments non pas baroques mais anciens. C'est le cas de notre approche de Mozart, que nous jouons avec des instruments d'époque, un diapason d'époque, et en retravaillant toute l'approche stylistique propre de Mozart, de la même façon que nous le faisons sur Vivaldi ou Couperin. Donc ce concert présentera évidemment ce Requiem très connu, mais en première partie avec des œuvres pas du tout connues, donc c'est sur une thématique Mozart connue, inconnue, voilà. Et puis après suit 8 programmes différents qui nous emmèneront jusqu'au mois de juin
avec
2014
Purcell
à la Chapelle de la Trinité, qui justement sera dirigé par Paul Agnew, le musicien dont nous parlions tout à l'heure. Et puis entre un certain nombre de projets
baroque féminin, j'ai
baroque féminin, lu aussi, des compositrices italiennes au musée des tissus, Le Jardin d'Amour, c'est le, à la Bourse de Lyon, ce sera des, en février, des œuvres composées pour le Palais Barberini au début du XVIIe siècle. On est au baroque naissant, j'allais dire. Un concert de Noël comme d'habitude, avec des Noëls plus populaires, catalans, provençaux et napolitains. Un concert Vivaldi au mois de novembre avec encore Vivaldi, mais une approche cette fois-ci complètement lyrique, puisque nous rejouons le répertoire de deux muses de Vivaldi qui étaient peut-être ses amantes aussi, pour lesquelles il a composé ses plus grands airs.
Le prêtre roux.
Oui, Vivaldi n'est pas une ambiguïté ou une entorse de ce style-là. On proposera également un concert théâtral autour de La Querelle des Bouffons, justement, avec le comédien Jacques Chambon, où on mettra en scène effectivement cet antagonisme franco-italien. Et puis ce concert dont je crois vous voulez parler, puisqu'il s'agit des Leçons de Ténèbres de Couperin, qui est un des musts, un des tubes de l'époque baroque. Hein. C'est Leçons de Ténèbres pour deux voix et puis instruments, qui t'est donné la nuit, d'où le terme de ténèbres, avec toute une théâtralité où on éteignait un à un tous les cierges de l'église au fur et à mesure des versets des Leçons de Ténèbres, donc une œuvre très intérieure, très forte. Et on a invité effectivement des musiciens indiens, quand je dis indiens, donc des indiens d'Inde, hein, qui vont jouer des ragas des ténèbres.
Vous pouvez donner leur nom à ces deux musiciens, je crois, non vous,
Oui, c'est autour de Ravi Prasad, qui est un joueur de flûte bansuri, un chanteur qui est très, très reconnu sur le plan mondial, et qui propose des ragas des ténèbres. Alors, Leçons de Ténèbres, ragas des ténèbres, bon, il y a une certaine un certain cousinage poétique et littéraire. Il s'agit bien sûr de deux cultures musicales et religieuses très différentes, mais finalement ce sont des œuvres qui ont le même degré d'intériorité, et on va faire également un travail sur la notion de mélismes musicaux, qui pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre la façon d'ornementer chez Couperin et dans la musique hindoue.
Comment cela peut-il est-ce que ça s'explique que, est-ce
ah non.
qu'il y a eu une
non c'est non. comment dire c'est une ouverture selon les cultures. Certaines cultures vont plutôt se diriger dans la musique par exemple africaine ou sud-américaine, ira plus vers le rythme. En France, en Occident, on va plus vers l'harmonie, vers la polyphonie. Au Maghreb, on va plutôt vers la richesse mélodique, avec les quarts de ton, tous les modes.
L'Inde
est plus proche, effectivement, de ce côté arabe et maghrébin, avec une infinie richesse de modes mélodiques. Et ces modes mélodiques offrent des possibilités d'ornementation, de mélisme très importants. Et Couperin, sans le savoir, a aussi travaillé dans cette direction-là. Donc moi, on va faire se répondre les deux voix baroques avec les deux flûtes bansuri. Donc on retrouve un peu la même texture sonore, hein, de deux voix de dessus, qui dialogue un peu suspendu dans l'espace, avec certes un matériel mélodique et un environnement différent, mais c'est bien ce dialogue-là dans l'espace, à la fois culturel et mélodique, qu'on va essayer d'établir. Il ne s'agit pas de mélanger les deux voix, mais de les faire se dialoguer dans l'espace. Et de plus, avec ce contexte à la fois théâtral et poétique, qui est commun à cette notion de musique de la nuit. Musique de la nuit, pas uniquement en tant que nocturne, en tant qu'ambiance, mais en tant que moment de recueillement du musicien et qui réfléchit et qui prie. C'est des prières, en fait, les deux.
Et comment cela marche-t-il ? L'avez-vous déjà fait, ou c'est une première ? Vous parliez d'invitation qui a été lancée. C'était des liens déjà tissés peut-être auparavant ?
Non. Ce sont des liens que nous avons tissés autour de ce projet. Enfin, que nous allons tisser, parce que ce n'est pas fait. Tout le travail reste à faire.
Mais je pense qu'il y a une histoire, non ? Ça date déjà de peut-être une année, deux années, non ?
Non. La création aura bien
lieu.
Le travail de recherche, oui, bien sûr. Mais j'attends avec impatience les premières répétitions, parce qu'on n'a pas encore testé. Donc tout ça, c'est un projet, ça reste encore virtuel. Je suis persuadé que ça va marcher. Mais on teste nos projets in situ, directement à Lyon, et quand ils marchent bien, ce qui est le cas 9 fois sur 10, après ils ont une vie en tournée en France et à l'étranger ou au disque. Mais la saison lyonnaise est notre laboratoire de création et les adhérents de la saison lyonnaise découvrent en direct le fruit de mes rencontres ou de mes divagations, de mes recherches en général quand même plutôt. Et c'est passionnant puisque les adhérents nous suivent sans avoir la possibilité d'avoir un avant-goût.
Sur écoute. Ouais.
Et voilà, ils nous croient sur parole. Et mais bon, ça fait quand même 20 ans que je construis ces dialogues culturels. Il est vrai souvent autour du bassin méditerranéen, mais bon, là, on s'échappe un peu, et c'est ça aussi le piquant hein, d'une aventure musicale. Il ne s'agit pas de ronronner avec les mêmes recettes et qui marchent, mais qui lassent.
Alors, je me demande même d'ailleurs, je vous demande, est-ce que j'aurai une réponse à cette question ? Je ne sais pas si je l'ai complètement posée, mais cela vient, disiez-vous, de rencontres que vous aviez, de recherches que vous meniez. Est-ce qu'il y aurait également un goût, enfin, je ne sais pas comment nommer ceci, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça ? C'est un intérêt que vous avez pour l'exotisme méditerranéen, dites-vous, ou bien, enfin, j'insiste, hein, ça peut sembler curieux ou je ne sais quoi, mais comment ces choses se font-elles? Cuba, enfin musique cubaine, musique ici on parle d'Inde, musique du Maghreb, vous l'évoquez, avez-vous déjà travaillé avec
Ah oui, les Maghrébins très souvent.
Maghreb aussi également.
Avec des Syriens, avec des Marocains, oui, très souvent. On a fait plusieurs résidences à Marrakech notamment, etc. Oui, alors ce cousinage, pourquoi s'évader du
et celui-ci peut-être précisément. Enfin, c'est à la fois les deux de manière générale. Comment oui. S'évader du baroque, certes, mais...
J'avoue que le centenaire avec l'Inde, c'est un peu plus osé, et d'habitude, c'est un peu plus évident et construit. Je me bats contre cette idée qu'il faut mettre un genre dans un placard sur lequel on met une étiquette. Vous savez, les bacs à la Fnac, bon, ben, voilà, ça, c'est de la world,
baroque,
ça, c'est du rock.
Et puis...
ça, c'est du baroque. Bon, non, en fait, au XVIIIe siècle, on n'a pas ce cloisonnement très mercantile.
Il est venu
très
par la suite.
Récent. Ce sont les mêmes musiciens qui jouent à l'église ou au bordel, avec des genres forcément très différents, mais avec la même sensibilité, la même culture, les mêmes instruments. Et au niveau géographique, il y a un brassage plus important. L'Europe musicale existe de manière plus évidente qu'elle n'a l'air de se construire actuellement sur le plan politique ou financier, par exemple. Au niveau artistique, c'était complètement évident et sans doute plus évident que maintenant. Et au-delà de l'Europe, il y a le bassin méditerranéen, qui est une autre évidence culturelle et géographique, hein, et ça, qui est millénaire. Hein. Et donc, moi, j'aime bien remonter ces routes anciennes qui m'apparaissent évidentes à moi, pour peu qu'on lise un peu les compositeurs ou les érudits des siècles que je traverse. Et j'aime bien remontrer ces évidences au public via la musique, via les concerts ou des enregistrements. Et puis, ça c'est en quoi je crois. Maintenant, sur un plan purement égoïste, j'avoue que c'est toujours très excitant et surtout salutaire pour moi de me confronter à des musiciens d'autres cultures qui n'ont pas le même rapport notamment à l'écrit. Les musiciens, nous, on est accrochés derrière notre métronome
partition.
Et ces musiciens, là, on parlait du Maghreb, de Cuba ou de l'Inde, n'ont pas de partition, en fait. C'est de la transmission orale. Et c'est bien l'écrit, hein. Sans Gutenberg, on n'en sera pas là en Europe. Mais c'est aussi des fois un frein. Parce que c'est un frein à l'écoute, au dialogue, à l'invention, à l'imagination. Et donc moi j'apprends beaucoup à titre personnel, sur le plan technique, sur le plan musical, en me confrontant, enfin confronter, pas le mot juste, mais en me mélangeant à des musiciens qui ont cette autre approche, qui vient enrichir non seulement mon imaginaire, mais aussi mon approche technique, instrumentale et vocale. Et je l'impose sans trop d'effort à mes musiciens, qui adorent ça, hein, c'est clair. Et puis du coup le public, et bien évidemment le public suit parce qu'il y a quand même une sorte d'évidence à la fois musicale et humaine derrière. On n'est pas dans le plaquage commercial.
Ouais, c'est pas non plus la fantaisie.
Et ça marche à tous les coups, franchement. Et parce que, comme vous le disiez, il y a quand même une histoire de plusieurs années derrière, des rencontres. Mmh. Et puis le point de départ d'une idée qui n'est pas non plus saute, qui n'est pas tirée par les cheveux non plus. Il me faut plusieurs arguments, en général sur le plan historique ou poétique, ou littéraire, ou musical, pour amorcer un mariage, en fait.
Je reviens encore donc précisément à ce concert, enfin du moins je reviens seulement pour évoquer ceci, le lien entre la leçon des ténèbres et le raga des ténèbres, donc voilà, ça fait peut-être un premier argument qui est une même utilisation des termes. Nous parlons précisément de concert, auriez-vous les dates sous les yeux, c'est au mois d'avril 2014, puisque nous présentons sur Radio Canu dans l'émission spectaculaire avec Franck-Emmanuel Comte, nous présentons la saison à venir, saison 21 du concert de l'Hostel Dieu, mi-avril je crois, c'est ça?
Oui, c'est le 6-8-9 avril, donc on n'y est pas.
Non, non. Et quel lieu? Parce que déménager pendant, enfin du moins déménager. Non, m'avez-vous bien indiqué, vous êtes basé, vous êtes à l'espace Saint-Marc, mais pour ces différents concerts,
La saison lyonnaise du concert à l'Hostel Dieu, c'est le principe d'itinérance. Donc chaque un concert, un lieu
et une pertinence, puisque par exemple le Requiem est donné dans ce.
À Fourvière. Oui, crypte. Parce que là, tout simplement, on a un plateau artistique qui est très important, donc on attend un public important, donc il nous faut un lieu important. Mais pour les leçons de ténèbres, on le sera plus dans l'intimité. Donc là, par exemple, on a choisi l'église Saint-Bruno des Chartreux, qui est d'abord un lieu, un bijou de l'art baroque, et puis qui permettra de mettre en scène deux scènes, une pour les Indiens, une pour les baroques, et qui sera propice à une forme d'intimité aussi, une forme de théâtralisation que l'on va créer à cette occasion.
Que pourrions-nous encore dire? Peut-être introduire l'extrait que nous allons écouter,
oui.
Ou bien Purcell pour la fin de saison, je ne sais pas, baroque au féminin, disiez-vous. Nous aurons sûrement l'occasion d'ici le mois d'octobre de se revoir pour parler peut-être pas du Requiem, parce que le Requiem sûrement beaucoup a été dit, mais baroque au féminin ou leçon de Couperin, moi ça m'intéresserait d'avoir une leçon de clarté sur ces ténèbres. Mais bon, vous disiez avril prochain, il y a encore le temps.
Alors oui, je souhaitais terminer par écouter Heather Newhouse, qui est une des artistes emblématiques du concert de l'Hostel Dieu. Et comme elle ne sera pas présente dans le concert final la semaine prochaine à le concert Vivaldi à la Chapelle de la Trinité.
Est-ce que nous pouvons dire pourquoi?
Oui,
elle
chante Pamina à l'Opéra de Lyon, donc elle sera à 100 mètres, mais dans un autre projet. Elle chante Pamina à la Flûte Enchantée de Mozart. Et donc là, je voulais juste vous faire écouter un extrait du dernier disque qui est sorti il y a 15 jours avec elle, qui est un extrait d'un autre oratorio de Stradella. Et elle chante l'air de Salomé, c'est l'air de la décapitation, puisqu'elle vient de couper la tête à un autre tyran, et ça la met en joie.
Je vous remercie de boucler la boucle, on pourrait dire. Nous recevions Franck-Emmanuel Comte, on va écouter cet extrait puisqu'il a été si bien introduit. Nous recevions Franck-Emmanuel Comte pour justement parler de ce concert à venir les lundis 17 et mardi 18 juin à 20h30 à la Chapelle de la Trinité. Concert, une œuvre, un oratorio de Vivaldi, la Giuditta, Giuditta Triomphante, la Judith Triomphante, avec cette Judith qui décapite Holoferne. Et là, nous parlions à l'instant de la saison à venir, avec précisément un extrait qui n'est pas non plus de la saison à venir, mais un extrait de cet artiste Heather Newhouse. Et nous allons écouter donc une autre personne qui décapite. Voilà, ça fait une référence à ces concerts, disons, ce programme pour deux concerts, lundi 17, mardi 18. Franck-Emmanuel Comte, nous allons écouter ceci. Et je vous dis au revoir et je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Merci à vous.
Nous écoutons cela et il nous reste encore quoi? Il y a encore une petite dizaine de minutes pour parler d'autres actualités, mais pour l'instant, nous restons au concert de l'Hostel Dieu. C'est une prise de son direct, c'est bien ça?
Oui, c'est live.
C'est du live. Merci encore, Franck-Emmanuel Comte. Spectaculaire continue sur Radio Canu 102.2 ou bien internet radiocanu.org. Thank you. Eh bien, nous écoutons à l'instant Heather Newhouse, et c'est un CD du concert de l'Hostel Dieu. On va tout de suite remettre une autre piste. En fait, c'est seulement une introduction parce que Heather Newhouse va chanter le rôle de Pamina pour la flûte enchantée à l'Opéra de Lyon, et nous allons écouter un petit peu l'air de Papageno plutôt, et puis ensuite nous reprenons tout de suite pour quelques annonces pour clore l'émission spectaculaire sur Radio Canu 102.2. Et voilà, nous écoutions à l'instant l'extrait de Papageno qui chante, je maîtrise mal l'allemand, Ich bin der Vogel, je ne sais plus exactement. Papageno, c'est le second rôle, je ne sais pas comment le nommer, de l'opéra La Flûte Enchantée, Zauberflûte, qui est donné à l'Opéra de Lyon, qui est donné, ça commence pas tout de suite, ça commence le lundi 24 juin jusqu'au lundi 8 juillet. Ce qui est intéressant à signaler, c'est que pour cet opéra, il y aura une spéciale le samedi 6 juillet, une spéciale puisque cet opéra, pour ceux qui ne pourront pas avoir de place et être à l'opéra, eh bien, il y aura une diffusion sur écran géant à la fois dans Lyon et puis écran géant également en région, un peu partout. On pourra voir cet opéra de Mozart, cet opéra, ce bel opéra plein de musique, c'est ce qu'on peut écouter à l'instant. Alors, puis-je vous donner des précisions sur les différentes salles? Il y aura, disons, en Rhône-Alpes à 21h30 dans toutes les villes, voilà, je vous lis le communiqué. Entrée libre, bien entendu, dans la limite des places disponibles, parce que ça risque d'être pris d'assaut. Il y aura des écrans à Ambérieu-en-Bugey, à Nantua, Divonne-les-Bains, Thonon-les-Bains, Chamonix, Bellegarde, Grenoble, Cré, ça c'est dans la Drôme, Montélimar, Valence, Usson en forêt, Tarare, Lyon bien entendu, Lyon ce sera sur la place des Terreaux, et puis Villefranche, je crois avoir tout indiqué. Si vous souhaitez avoir des précisions, allez sur le site de l'Opéra, opéra-lyon.com, ou bien allez sur les sites locaux, par exemple villefranche-point.net, ou bien ville-ambérieu-en-bugey-tout-accroché.fr, ou encore chamonix.fr, ou bien ville-grenoble.fr, ou mairie-cré.fr. Allez sur ces différents sites pour avoir des précisions sur La Flûte Enchantée de Mozart, donnée, projetée sur grand écran. Ce sera gratuit, ce sera depuis l'Opéra de Lyon en simultané dans la région Rhône-Alpes. Je pense que à l'Opéra de Lyon, la représentation sera tout de même à l'heure indiquée, c'est-à-dire 20h. Je pourrais vous en reparler de cet opéra, mais il me semble la semaine prochaine, il sera encore temps, voire la semaine suivante, puisque ça aura à peine commencé. D'autres petites annonces encore. Il y a à l'Auditorium une belle fin de mois de juin, puisque l'œuvre pour piano, je pense qu'on peut employer ce terme-là, de Rachmaninov sera jouée. Il y aura les 4 concertos pour piano, il y aura également les variations sur un thème de Paganini, et puis il y aura aussi d'autres œuvres qui seront données. Par exemple, les danses symphoniques accompagneront tout cet ensemble. C'est donné sur 3 concerts. 3 dates que je vous redonnerai. Vous pouvez les trouver en vous rendant sur le site de l'ONL. Orchestre Saint-Saul de Lyon, je n'ai pas l'adresse du site sous les yeux. Ce que je peux évoquer, et puis je pense qu'on va rester là, j'aimerais faire écouter un petit peu de David Lynch. Je vais vous indiquer où j'ai trouvé ceci, où j'ai trouvé cela. Attention, j'ai deux auditeurs qui sont toujours très attentifs à tous les mots que je peux prononcer. J'aimerais indiquer qu'à l'Institut Lumière, il y a une soirée le vendredi 28 juin, une soirée McTiernan, soirée L'épouvantable vendredi, présentée par Fabrice Calzettoni, avec à 20h le film Predator, qui date de... Non, la date n'est pas donnée. Un film d'1h47, il y aura une sorte de pause, et puis à 22h30, Last Action Hero, toujours un film de John McTiernan, puisque c'est le principe de la soirée, c'est de donner deux films du même cinéaste, un film qui dure 2h10, un peu plus, donc c'est une belle soirée, il y aura différentes choses qui seront prévues. J'ai bien envie de lancer une invitation à Fabrice Calzettoni, il faudrait que je me dépêche pour faire ceci. Il pourrait donc nous parler de cette soirée, L'épouvantable vendredi, spécial John McTiernan, à l'Institut Lumière, renseignements à obtenir sur le site institut-lumière.org. Je voulais également parler des différents festivals à venir, Nuit de Fourvière qui ont déjà lieu, qu'est-ce qu'il y a encore, le festival Jazz à Vienne du 28 juin jusqu'au début juillet. Je souhaitais parler de tout un tas de choses, mais je pense que je n'ai plus vraiment le temps. Écoutons David Lynch, d'où est-ce que cela vient? J'ai sous les yeux la compilation Printemps-été 2013, c'est un CD qui se trouve en vente avec le numéro des Inrecuptibles de la semaine. Le premier titre, je vois que c'est David Lynch qui chante, enfin du moins, je vois que c'est un titre de David Lynch, Are You Sure, extrait de l'album The Big Dream. Eh ben, écoutons un petit peu ce que ça donne, et puis ensuite, je crois qu'il sera temps de mettre la musique de générique, et puis Blues des Canuts va prendre la suite. Écoutons David Lynch avec Are You Sure, cet extrait de la compilation des Inrocs. Le numéro de cette semaine, c'est quel numéro? C'est le numéro 915 des Inrecuptibles, c'est en vente ce matin même. Plions les musiques en cette fin d'émission. Nous écoutions juste avant cette musique de générique, Massive Attack, Unfinished Sympathy. Nous écoutions un peu avant David Lynch, Are You Sure, un extrait de l'album The Big Dream. Ça se trouve sur la compilation des Inrecuptibles. C'est le numéro 915 qui est le numéro qui vient de sortir aujourd'hui, mercredi, pour toute la semaine. Blues des Canuts va arriver. Nous sommes toujours sur Radio Canuts, radiocanuts.org si vous souhaitez nous écouter sur Internet, ou bien le 102.2 de la bande FM à Lyon. Spectaculaire s'achève, mais les programmes continuent. Restez à l'écoute de Radio Canuts. Rendez-vous mercredi prochain et portez-vous bien. Ciao tout le monde.